Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Un taux de chômage de 9,7% fin 2020, c'est ce que prévoit l'INSEE en France. Qu'est-ce qui est mis en place pour aider les demandeurs d'emploi? On en parle avec nos invités.
Emmanuel Maire, le vice-président à l'emploi, à l'insertion, l'économie sociale et solidaire à l'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse. Et Muriel Bancillon, responsable du service Point Info Emploi.
La CA3B organise depuis cette rentrée les rendez-vous de l'emploi. Reportage pour la première édition, c'était dans une boulangerie à Bourg-en-Bresse.
Vous entendrez aussi la directrice de Pôle Emploi dans l'Ain. On fera le point sur la situation de notre département.
Et on commence tout de suite avec l'actualité.
Bourg, en bref.
Crise sanitaire et éducation nationale, la FSU, le premier syndicat des écoles en France, alerte notamment sur les conditions de travail des enseignants. Nicolas Jambon, élu FSU au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est professeur au collège de Vona.
On a voulu évidemment parler des conditions de travail de tous les personnels dans le cadre de la crise sanitaire, qui sont des conditions qui sont très difficiles. Ça, il faut que les gens en aient conscience. Pour les enseignants d'une part, car là je parle avec le masque, parce que j'en ai l'habitude, et on a l'habitude de forcer sur la voix, et c'est le cas pour les enseignants. Et on voit certains qui commencent à tomber comme des mouches, pour des extinctions de voix notamment. Voilà, donc c'est un gros souci qu'on a à moyen terme, bien que le masque évidemment reste la protection principale. Les autres personnels sont d'ores et déjà épuisés. Je pense aux surveillants, je pense aux directeurs d'école, aux chefs d'établissement, aux CPE, aux infirmières scolaires, parce que le protocole sanitaire, évidemment, induit des missions supplémentaires par rapport à l'existant.
Est-ce que vous pouvez détailler un peu ces missions?
Alors, par exemple, pour les surveillants, l'application du protocole sanitaire au quotidien va obliger d'emmener, par exemple, tous les élèves au lavage de mains le matin. De respecter le port du masque pour tous les élèves, d'avoir des circulations particulières pour que les élèves ne se croisent pas, d'appeler de façon échelonnée, par exemple pour l'après-midi, dès 2h moins quart, les élèves pour aller à la bagagerie, pour revenir de la bagagerie, pour commencer à monter en classe, etc. Donc c'est un travail qui est harassant. Il y a le temps de midi aussi, le temps de la restauration, qui est le vrai talon d'Achille en fait, notamment dans le second degré, puisque c'est le moment où les élèves quittent le masque.
Donc là, ça fait qu'un mois que vous travaillez, les professeurs, et vous sentez déjà un ras-le-bol?
On sent déjà une grande fatigue, beaucoup d'inquiétude par rapport à la situation. On a eu quelques éléments hier. Donc ça, on insiste sur le fait que notre administration est très muette par rapport à la situation. Il y a quand même une grande omerta par rapport à la crise sanitaire. Et il a fallu attendre donc le 6 octobre pour avoir notre premier point précis des cas de Covid chez les personnels, chez les élèves, des cas contacts à la fois dans les écoles, les collèges et les lycées. Sur le terrain, les personnels ont été un petit peu livrés à eux-mêmes. On est passé d'une situation au printemps avec un protocole qui était très conséquent, mais qui était relativement clair, puisqu'il évoquait toutes les situations. On tourne actuellement avec un protocole dans les établissements qui ne fait que 6 pages et qui élude la plupart des situations. Donc chacun a dû inventer dans les établissements et au quotidien ses propres règles du jeu et essayer de trouver des solutions. D'où aussi cette situation de grande fatigue et notamment ce sentiment peut-être d'abandon. Puisqu'il y a beaucoup de questions qu'on a posées dès le mois de mai et qui restent encore sans solution, sans réponse. Un exemple concret, dans les lycées professionnels, quid du matériel qui est échangé par les élèves? Il n'y a toujours pas de réponse là-dessus. Idem dans les salles de sciences, dans les collèges. Quelle protection pour, par exemple, les AVS dans les écoles? Parce qu'ils sont au contact des élèves qui, eux, n'ont pas le masque.
Et comment se fait le dialogue avec l'État, avec l'éducation nationale?
Le dialogue, il est compliqué depuis le début, notamment car depuis cet été, des textes tombent. Il y a des déclarations du Premier ministre, il y a celle du ministre, il y a les textes du ministère d'Éducation nationale, ceux de la fonction publique, il y a ce que dit le préfet, il y a ce que dit le recteur. Et évidemment, pour tout le monde, c'est très compliqué de s'y retrouver, avec souvent des injonctions qui peuvent être paradoxales et des textes qui se contredisent.
Et là, qu'est-ce que vous demandez à l'État, à l'Éducation nationale ?
Alors, on souhaiterait évidemment avoir des réponses sur de nombreuses questions qu'on se pose, avoir davantage de réactivité de la part de l'administration. On parle depuis la rentrée de septembre, par exemple, des masques à fenêtres pour équiper les professeurs qui sont au contact d'élèves malentendants. Ces masques, visiblement, on ne les aura pas avant la rentrée des vacances de la Toussaint. Ça fait 2 mois, donc c'est un vrai souci. On souhaiterait évidemment des moyens humains dans les établissements. Il y a un manque, il n'y a pas un COPEC qui a été mis supplémentaire dans les établissements. On aurait besoin de surveillants. On aurait besoin aussi de davantage de personnel des collectivités pour la mise en place des protocoles, pour la désinfection, pour le nettoyage des salles. C'est des choses que nous n'avons pas. Et on est très inquiets en voyant arriver l'automne et les épidémies saisonnières, puisqu'on sait que ça va provoquer des absences, notamment en raison de suspicion, tout simplement. Et le sous-effectif va accroître encore la difficulté, alors que les collègues sont déjà très fatigués actuellement.
C'était Nicolas Jambon, élu FSU au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et professeur au collège de Vona. Ce dernier insiste, les enseignants ne pourront pas garder le masque à long terme. Il faudra trouver des aménagements horaires, techniques, avec peut-être des amplificateurs de voix. En résumé, trouver des solutions pour que la situation soit tenable dans la durée.
Le 15 octobre, une nouvelle journée de mobilisation nationale est lancée par les syndicats CGT, Sud et les collectifs Interurgence et Interbloc. Les hospitaliers veulent plus d'embauches et une revalorisation significative des salaires. Cette journée aura lieu le lendemain de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Une hausse des salaires de 180 euros avait déjà été actée à la fin du Ségur de la Santé en juillet dernier. Mais le secteur a perdu en attractivité avec des départs qui se multiplient. Les hospitaliers alertent sur le manque de personnel pour faire face à la période hivernale.
Et du côté de la CFDT dans l'Ain, une mobilisation a lieu mardi 13 octobre devant la préfecture à 16h. L'objectif, étendre les accords de Ségur aux personnels sociaux et médico-sociaux.
La préfecture appelle à la vigilance dans l'Ain, zone où le virus circule activement. La situation dans le département est très fragile, selon la préfecture. Les villes de Lyon et Saint-Étienne, non loin du département, sont en alerte maximale. Près de la moitié des clusters vient de rassemblements festifs.
Le président Emmanuel Macron va aussi prendre la parole mercredi à 20h sur TF1 et France 2. Il pourrait annoncer de nouvelles mesures en lien avec l'épidémie.
Depuis une semaine, le lycée Lalande vit au rythme des sonneries incendies. Une ou plusieurs personnes embrasent des poubelles, comme vendredi dernier. Les lycéens ont dû évacuer les lieux. La police était pourtant bien présente. Des lettres anonymes qui menaçaient d'un autre incendie avaient été retrouvées dans le lycée. Pour le moment, on ne sait pas qui est à l'origine de ces départs d'incendie. Mardi 13 octobre, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sera au lycée Lalande pour présenter un nouveau dispositif de sécurité.
La 31e édition des semaines d'information sur la santé mentale, ça commence ce lundi et c'est jusqu'au 22 octobre. Cet événement a pour objectif de sensibiliser le grand public aux discriminations qui touchent les patients qui souffrent de troubles mentaux. Radio BI participe. Vous pourrez entendre les témoignages sonores de patients du centre psychothérapeutique de l'Ain jeudi 22 octobre à 18h30 au temps des noyaux. L'écoute sera suivie d'un échange. C'est gratuit et inscription auprès du CPA.
Une salle Philippe Barbereau à la mairie de Bourg-en-Bresse, en hommage à l'ancien directeur général des services de la ville. À ce poste depuis 2008, il avait pris sa retraite en 2018. Philippe Barbereau est décédé en mai dernier.
Bien manger, ne pas gaspiller, mois spécial au campus de Bourg. Ce mardi 13 octobre, le camion cuisine de la banque alimentaire et une diététicienne seront présents pour sensibiliser les étudiants. Ils découvriront entre autres des plats anti-gaspillage et équilibrés avec fruits et légumes de saison et aussi à petit prix.
Le bien manger aussi à l'honneur pour des collégiens du département. 4 collèges participent à la semaine agri-locale auprès de l'assiette. Ils se sont engagés à confectionner un repas 100% local. Parmi les volontaires, le collège Louis Vuitton à Saint-Trivier-de-Courte et Léon Coma à Villars-les-Dombes.
La journée de la France des solutions, c'est ce lundi 12. Cet événement est organisé par Reporters d'Espoir, un média qui met en avant les initiatives positives. Pour cette nouvelle saison, Radio B a décidé d'en faire de même. Votre nouvelle émission « Vous avez la solution » vous fait découvrir de belles initiatives dans le département. La dernière est à retrouver en podcast sur notre site radio-b.fr, rubrique info. Et vous partirez à la rencontre de Jérôme et de ses lamas qui visitent les personnes âgées.
Soyez à l'écoute de Radio B, gagnez vos places pour le film « Parents d'élèves » de Noémie Salio. C'est l'histoire de Vincent, qui n'a pas d'enfant, mais qui rejoint un groupe de parents d'élèves. Le film est déjà en salle. Pour gagner, c'est très simple, dès que vous entendez le spot, appelez-nous au 04 69 19 55 27. Les places sont valables dans tous les cinémas et à toutes les séances.
La FCPE est partenaire de ce film et de Radio B pour vous faire gagner ses places. Retrouvez la minute du parent d'élève les 2e et 4e mercredis du mois à 7h55, 8h55 et 12h55 sur 90FM et en podcast sur radio-b.fr.
2 minutes, une actu.
La semaine dernière, l'INSEE a dévoilé une nouvelle prévision. Le taux de chômage devrait atteindre les 9,7% à la fin de l'année.
Il était à 8,1% en décembre dernier à titre de comparaison. Une hausse conséquente qui s'explique par la suppression de plus de 700 000 emplois début 2020, mais aussi des restrictions importantes dues à la crise sanitaire qui touche directement l'économie.
Alors comment se calcule le chômage en France ?
Deux organismes s'en occupent, l'INSEE donc, mais aussi Pôle emploi. Pour l'INSEE, un chômeur, c'est une personne qui a au moins 15 ans et qui est sans emploi et qui est en recherche active de travail. La méthode de calcul, c'est un sondage réalisé tous les trimestres auprès de 110 000 personnes. Le chiffre est ensuite rapporté au nombre d'actifs. La définition vient du Bureau international du travail, ce qui permet une comparaison entre les pays européens notamment. Les chômeurs, selon l'INSEE, ne sont donc pas forcément inscrits à Pôle emploi et c'est réciproque.
Et pour Pôle emploi ?
Pour Pôle emploi, un chômeur, c'est une personne inscrite sur ces listes. Il existe plusieurs catégories pour classer les demandeurs d'emploi. La A, pour ceux sans travail, les catégories B et C, pour une activité réduite. Le plus souvent, seule la catégorie A est prise en compte.
Et dans l'ANS, comment se porte l'emploi ?
La demande d'emploi dans la catégorie A a augmenté de 12,2% fin août. C'est la plus forte augmentation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Martine Demont, la directrice de Pôle emploi dans l'Ain, nous l'explique. L'augmentation vient de l'arrêt des missions d'intérim pendant le confinement. Le travail partiel a donc diminué et les inscrits sont passés de la catégorie C à la catégorie A.
Et du côté des offres d'emploi ?
Elles ont baissé de 13,7% sur l'année existante. Moins d'offres à cause du confinement et de l'arrêt de l'activité, qui reprend cependant. La directrice estime qu'il faudra attendre la fin de l'année pour faire un bilan. Les secteurs en demande sont ceux de la santé, du bâtiment, de l'industrie et de la logistique. Martine Demont constate qu'il n'y a pas assez d'aides-soignants par rapport à la demande, par exemple.
Et pour les chiffres du chômage, côté Pôle emploi ?
Les chiffres doivent tomber en novembre pour le deuxième trimestre 2020. Au premier trimestre, il y avait 5,2% de chômage dans l'Ain. C'est le plus bas de la région après le Cantal. L'Ain est un département dynamique au niveau de l'emploi, principalement grâce aux nombreuses industries de son territoire.
Du côté des bureaux de Pôle emploi, comment s'est passée la réouverture ?
Les bureaux ont rouvert en mai, sans trop de monde au début. La directrice de Pôle emploi dans l'Ain nous explique.
On a accueilli le public avec bien sûr toutes les consignes sanitaires. Hein. On a des référents sanitaires dans chaque agence qui s'assurent que tout le monde respecte bien les gestes barrières. Et pendant le confinement, on a assuré toute notre activité par le biais du télétravail et d'entretiens téléphoniques, mais on a continué à la fois d'avoir des entretiens avec les demandeurs d'emploi, de répondre aux sollicitations des entreprises et d'indemniser les demandeurs d'emploi. On a géré les flux. Il n'y avait pas forcément des flux importants au début de la réouverture. Et puis petit à petit, on est revenu à une situation normale avec des flux habituels. Des personnes qui utilisent aussi pas mal le téléphone. Et on a mis à disposition tous nos services dématérialisés, puisque un certain nombre d'actes administratifs peuvent être faits par les demandeurs d'emploi sur leur espace pôle-emploi.fr, y compris, ils peuvent déposer leur CV sur cet espace, et ils peuvent aussi s'abonner aux offres d'emploi. Et ils peuvent avoir des contacts et des services aussi avec leurs conseillers référents.
Si vous devez vous rendre à Pôle emploi, c'est au 323 avenue de Parme à Bourg-en-Bresse. Il y a aussi des bureaux à Ambérieu-en-Bugey et à Oyonnax.
L'invité de Radio B.
Bonjour Emmanuel Merle.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente en charge de l'emploi et de l'insertion à la CA3B, la communauté d'agglomération de Bourg, et première adjointe à Viria. Bonjour Muriel Bansillon.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service Point Info Emploi.
Mesdames, comment sont nés les Points Info Emploi ?
Eh bien, les Points Info Emploi sont nés à Viria en 1995. Quelques bénévoles avaient pris le sujet en main pour pouvoir aider au mieux les personnes en recherche d'emploi. Et petit à petit, le projet s'est développé, a pris de l'ampleur et rapidement est devenu une compétence au niveau de BBA Bourg-en-Bresse Agglomération. Et puis le process s'est développé toujours d'année en année. Et là, c'est une grosse structure qui est mise en place au sein de la CA3B. Donc la CA3B, c'est 74 communes regroupées tout ensemble.
En quoi consistait donc ce point info emploi à l'origine ? Qu'est-ce qui était prévu concrètement ?
À l'origine, les bénévoles donc, qui étaient issus de Viria, puis après très vite à Saint-Denis, Perona, il y avait également eu Jasseron, donc voulaient aider leurs concitoyens qui étaient au chômage. Voilà.
Et comment ils les aidaient ?
Il les aidait en les accueillant déjà, en les écoutant, en les aidant à faire une lettre de motivation, un CV, ils invitaient des entreprises. Et c'était surtout autour de la convivialité, de reprendre confiance en soi et de ne pas être seul dans sa recherche d'emploi. Et d'ailleurs, ces valeurs sont restées les mêmes 20 ans après. Et donc moi, j'ai été embauchée en 2000 pour professionnaliser ces points info et créer les points info de Bourg-en-Bresse dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et aujourd'hui, donc, l'équipe est composée de 6 personnes et il y a 12 permanences des points info emploi.
Donc c'est toujours le même principe. On va à la rencontre des gens pour les aider à faire un CV, une lettre de motivation.
Le principe, c'est que les gens viennent dans la permanence qui leur convient le mieux. Soit près de chez eux, soit s'ils ont envie d'aller à Saint-Tribier, même s'ils habitent à Bourg, c'est également envisageable. C'est sans rendez-vous, c'est animé par des professionnels et des bénévoles, et c'est en fonction du projet de la personne. Soit la personne veut préparer un entretien de recrutement, soit elle veut une aide pour la rédaction de son CV, soit elle est en congé parental, ça arrive souvent, elle veut réfléchir à un nouveau projet professionnel. Voilà, nous accueillons toute personne avec des questions autour de l'emploi et de la formation.
Est-ce que vous savez combien à peu près de personnes ont utilisé ces services ?
Depuis 24 ans, en tout cas, on peut vous dire qu'il y a eu 18 430 personnes qui ont été accueillies. Voilà, puisqu'on avait fait des statistiques. Voilà, et qu'en général, une personne sur deux retrouve le chemin de l'emploi ou de la formation.
Et donc, d'avoir créé ces points info-emploi, c'est qu'il y avait un vrai besoin dans notre département, dans l'agglomération ?
Alors, un besoin, oui, et c'est en même temps, les points info sont complémentaires à Pôle emploi. Hein, c'est deux services distincts, mais qui sont complémentaires. On travaille en partenariat avec Pôle emploi, et donc les gens s'y retrouvent vraiment.
Est-ce que vous pouvez expliquer plus la différence entre ces points info-emploi, Pôle emploi, comment vous complétez, comment vous répartissez les tâches ?
Enfin, c'est pas du tout comparable, j'ai envie de dire, parce que Pôle emploi est national, les points info, c'est sur la communauté d'agglomération, donc sur le bassin de la CA3B. Voilà, Pôle emploi a d'autres services, des services que nous n'avons pas. Nous sommes sur l'accueil, sur l'écoute, sur, comme je disais, prendre la personne là où elle en est. Nous n'avons pas de lien de prestations financières avec les personnes qui viennent nous rencontrer. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, la force Les points info emploi, c'est quand même le tandem bénévole professionnel.
Voilà, on a, Muriel l'a insisté, c'est un lieu d'écoute, de partage, de convivialité. Il y a une visite qui s'instaure, il n'y a pas de rendez-vous de prendre, il n'y a pas de compte rendu à rendre ni aux uns ni aux autres. Voilà, tandis que Pôle emploi, ben, c'est obligé, on a le cadre administratif qui est là et qui... Mais c'est bien normal, parce que derrière, il y a toute la partie financière qui s'impose, donc il faut avoir une réglementation. Tandis que le point info... Il n'y a pas de contrepartie financière derrière toutes les actions qui sont menées. Et Muriel insistait également sur les bénévoles, qui c'est une mine d'or pour les points info emploi. Là, sur 2019, c'est 66 bénévoles qui travaillent auprès des agents professionnels. Et sans eux, il n'y aurait pas ce travail de fait pour accueillir toutes ces personnes qui sont en recherche d'emploi.
Et quel est le profil de ces personnes bénévoles ?
Alors, il y a différents types de profils. Alors, ça a beaucoup évolué au fil des années. Au départ, c'était surtout des bénévoles qui étaient retraités ou salariés. Et de plus en plus, nous avons des bénévoles qui sont eux-mêmes en recherche d'emploi et qui viennent aider leur père, en fait, donc dans le conseil, dans l'écoute. Et parfois, des bénévoles qui ont la volonté de se reconvertir dans les métiers du social ou de l'insertion professionnelle comme les nôtres. Donc ça leur fait une expérience. Et c'est également donner du sens, donner de leur temps, voilà, des gens qui se retrouvent au chômage et qui ont perdu un petit peu leur repère. Et de ce fait, ils viennent sur une, deux ou trois permanences pendant le temps de la semaine. Il faut savoir que cette expérience, elle peut être valorisée dans le CV, bien sûr. Ils ne sont pas restés... sans rien faire, hein. Ils ont donné de leur temps pendant leur période de chômage. Et c'est très apprécié. Et nous-mêmes, nous ne pourrions pas nous passer des bénévoles, puisque nous accueillons un certain nombre de personnes. Et voilà, ils viennent. C'est vraiment la force des PIE, c'est ce tandem bénévole-professionnel.
Et c'est des bénévoles qui sont formés en même temps. Hein. Voilà. Il y a des formations. On n'est pas, on ne devient pas bénévole comme ça du jour au lendemain parce qu'on a envie de venir aider au point info. Il y a toute une adaptation qui est faite pour que le travail soit réel et sérieux.
On met en place sur toute l'année un programme de formation pour les bénévoles, des visites d'entreprises ou de structures de l'insertion pour qu'ils soient eux-mêmes capables de pouvoir... conseiller ou orienter la personne vers cette structure d'insertion. Voilà. Après, les bénévoles, ça bouge beaucoup.
Est-ce que vous en recherchez régulièrement ?
Oui, tout à fait. On en recherche régulièrement. Parce que comme on a une grande partie de bénévoles en recherche d'emploi, c'est le point info, c'est un véritable tremplin. Et du coup, ils repartent assez vite. Donc, il nous faut de nouveaux bénévoles.
Et au niveau des entreprises ?
Donc, on a des entreprises qui nous connaissent parce qu'ils ont entendu parler des points info emploi. Hein, ça fait quand même de nombreuses années qu'on existe. Donc, par le biais des mairies aussi, ou des centres sociaux dans lesquels on est hébergé. Donc, ils vont nous appeler directement pour nous déposer une offre. Ça peut être les offres aussi que nous, on va capter sur Internet ou sur Pôle emploi. Et on va prendre contact avec l'entreprise ou la personne va prendre contact avec l'entreprise. Et à force, on a... on a tissé ce réseau d'entreprises sur lesquelles voilà, on peut s'appuyer. Et là, on a organisé mardi dernier, et on va en organiser chaque mois, donc les rendez-vous de l'emploi.
Pourquoi avoir choisi cette période-là pour les lancer, cette rentrée-là ? Est-ce que c'est en lien avec la crise qu'on vit ou c'était déjà prévu ?
Non, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a eue pendant le confinement, où on a réfléchi avec, puisqu'on était tous en télétravail. Et pendant ces deux mois, voilà, on s'est dit comment on va appréhender cette rentrée. Et il y a plein d'idées. On n'est jamais à court d'idées pour essayer de trouver un petit peu de la nouveauté. Donc voilà, c'est parti de là. Voilà,
c'est la nouveauté et puis il faut être innovant pour se faire connaître autrement. Voilà, pour capter vraiment le plus large public possible. Ouais.
Madame Merle, peut-être quelques mots sur la CA3B et son rôle dans l'emploi et l'insertion. Quelles sont les différentes choses mises en place par l'agglomération ?
Eh bien, le rôle de la CA3B, là, c'est de soutenir, bien sûr, financièrement les points info emploi. Et en plus de la CA3B, les points info sont largement subventionnés par le FSE, Fonds Social Européen. Donc ce fonds-là, c'est des gros dossiers administratifs à monter. Là, je salue d'ailleurs le travail qui est fait par les services, parce que c'est des dossiers très 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 lourds à monter. La CA3B, on est là pour aider notre service emploi insertion. On est au plus près, et ça, c'est une tâche, comme je commence la vice-présidence dans le secteur, c'est une tâche à laquelle je vais vraiment m'attacher pour mener vraiment à bien tous les projets. Et tout à l'heure, on vous parlait d'être innovant, mais il va falloir être vraiment, il faudra qu'on soit très innovant sur le mandat 2020-2026. Il y a pas de doute si on veut continuer à travailler comme il a déjà été fait précédemment.
Et en plus de ces points info emploi, est-ce qu'il y a déjà des petites idées qui sortent déjà ?
Pour innover, justement, comme vous le disiez.
Pour innover, c'est une idée comme ça dans le vent, mais l'autre jour, on se disait, comme il faut être plus proche des publics, et pourquoi pas avoir un petit camion qui tourne dans toutes nos communes, parce que 74 communes, il faut arriver à les réunir en même temps. Mais bon, là, c'est une idée comme ça. Hein. Il n'y a pas de budget là-dessus pour le moment, rien du tout. Mais voilà, il faut vraiment qu'on aille au plus proche des gens pour aider tout le monde, parce que des gens en difficulté, ou alors ça peut être très passager également. C'est pas parce qu'on habite Bourg que ça va mieux aller. On peut habiter au fin fond de la Bresse, et ça peut être également très compliqué de retrouver un emploi. Donc il faut oublier personne quand on a un grand territoire comme celui-ci, et ça ce sera un grand défi.
Mesdames, merci.
Merci à vous.
Emmanuel Merle, donc vous êtes vice-présidente à l'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse, première adjointe à la mairie de Viria, et Muriel Bancillon, responsable du service Point Info Emploi. Parmi les partenaires de Point Info Emploi, on l'a dit, Pôle Emploi, mais aussi la mission locale, les organismes de formation, la DEA ou encore l'AFPA, Centre de formation pour adultes.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Les points info emploi s'exportent au plus près des Burgiens avec les rendez-vous de l'emploi. C'est ouvert à tous. L'objectif, montrer son CV, obtenir des conseils et peut-être même trouver un travail. Nous sommes allés sur place à la boulangerie Cerea dans le quartier prioritaire Croix-Blanche pour comprendre leur organisation.
Bonjour. Est-ce que vous avez un CV ?
Oui.
Eh bien, je veux bien votre CV, s'il vous plaît. Super, je vous remercie. Alors, qu'est-ce que vous recherchez ?
Je ne sais pas si vous faites le tertiaire.
On fait tout domaine, on est généraliste.
D'accord.
Donc plus dans le domaine du tertiaire. Et bien c'est tout bon pour moi, je garde votre CV et je vous recontacte dès qu'on a une opportunité.
Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ?
Je suis venue par curiosité un peu, j'ai vu l'annonce de Cerea sur Facebook. Comme quoi il y avait une permanence avec intérim, donc je me suis dit pourquoi pas aller voir.
Et donc c'est quoi votre situation en ce moment ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Pourquoi vous êtes en recherche ?
Alors bah, pour l'instant je suis maman au foyer et on est en train de construire une maison, donc il serait peut-être temps pour moi de trouver un emploi pour gagner des sous. Donc voilà, c'est simplement pour ça.
Et vous parliez de votre expérience de vendeuse à domicile, ça, c'est, vous avez décidé d'arrêter, pourquoi ?
J'avais pas trop le temps le week-end, avec mon fils aussi qui touchait à tout, parce que c'est quand même un travail à domicile. Et avec la situation sanitaire actuelle, c'était encore plus compliqué. Donc voilà.
Vous êtes satisfaite de cette initiative, d'être venue ?
Ah bah c'est sympa, oui, de proposer des permanences comme ça, où tout le monde peut venir voilà, avec un CV. Et, voilà.
Et ça fait longtemps que vous cherchez ?
Oui.
Et c'est dur en ce moment ?
Oui, c'est un peu dur. Ouais. J'ai fait des remplacements, mais voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais. Voilà. Des remplacements de une heure et demie, c'est pas bon pour moi. J'ai l'espoir d'avoir quelque chose pour moi, un travail stable pour moi. Et aussi, je profite aussi pour le permis. pour ça va m'aider un petit peu pour déplacer tout ça voilà, en voiture.
Bonjour, Goran Tonev, donc je suis conseiller réseau emploi au Point Info Emploi. Voilà.
Alors comment ça s'organise cette matinée ici à Céréa ?
Marion donc d'intérim est présente là ce matin pour donc conseiller les personnes en recherche d'emploi aussi dans leur démarche, au-delà du fait qu'elle est venue également pour repérer des candidatures intéressantes. Donc l'idée aussi, c'est pour nos participants, que ceux-ci soient confrontés avec la réalité, je dirais, de la parole de l'employeur. Hein. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'ils se confrontent, que ce soit comme un test, qu'ils présentent leur CV, qu'ils se présentent eux-mêmes, qu'ils aient un retour de l'agence et que ces personnes puissent évoluer. Voilà. Soit ça peut évoluer dans le sens positif directement par un emploi, soit ça va évoluer par d'autres biais, en prenant conscience aussi de ce qui reste à travailler. Et puis ensuite, on les accompagnera sur ces freins liés à l'emploi.
On a aussi des ateliers pour se déplacer.
Oui, tout à fait. Nous avons quelques acteurs de la mobilité, donc La Station, Keolis et WeMove qui sont présents aujourd'hui. L'idée étant justement, je vous parlais de freins tout à l'heure, là c'est plutôt un frein lié à la mobilité. Ces acteurs, ces trois acteurs, à leur manière, proposent des solutions ou en tout cas des pistes à étudier pour lever les freins liés à la mobilité.
Marion Le Bornec de l'agence Intérim à Bourg-en-Bresse.
Alors quel est votre rôle aujourd'hui ici ?
Mon rôle aujourd'hui, ça va être basé sur le recrutement, donc de nouveaux candidats pour pouvoir les proposer à nos entreprises utilisatrices en intérim, aux différentes offres, etc. qui peuvent nous demander de rechercher.
Comment vous procédez avec les personnes qui viennent ?
Le but, c'est vraiment de savoir ce qu'ils recherchent au niveau des postes, au niveau des compétences qu'ils ont, au niveau des contraintes horaires, de la mobilité, pour vraiment faire un descriptif de leur disponibilité et de ce qu'ils vont rechercher pour leur proposer au mieux les offres qui leur correspondent.
Et au niveau des offres, ça se passe comment en ce moment ?
En ce moment, c'est un peu de poids de mesure. On va avoir de la demande, mais sur du profil très 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 qualifié où on va dire qu'il y a une tension au niveau du nombre de candidats disponibles. Ou sinon, on va avoir aussi de l'amende très ponctuelle. Très peu de long terme à l'heure actuelle parce que les entreprises ont beaucoup de vision à court terme actuellement, plutôt que long terme, ce qu'on a eu jusque-là. Le secteur qui va recruter le plus actuellement, c'est la logistique et l'alimentaire. Voilà.
Je vous remercie bien.
Merci à vous.
Passez une bonne journée.
À vous aussi.
Merci.
Au revoir.
Le prochain rendez-vous de l'emploi Bresse-Vallon à Écrins au mois de novembre, la date est encore à fixer. Sinon, à la MCC de Bourg, la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, ils organisent aussi des rendez-vous avec le Groupement pour l'insertion et la qualification BTP et l'AFPA. Vous pouvez venir sans rendez-vous pour rencontrer l'un des deux organismes. Toutes les infos sur grandbourg.fr. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.